Andrea Riccardi, bonjour.
Bonjour.
Tout peut changer, dites-vous, c'est le titre de votre livre interview avec Massimo Naro. Mais au vu des élections aux États-Unis, au Brésil et chez vous en Italie, est-ce que ce changement ne se fait pas en ce moment en faveur des égoïsmes nationaux?
Mais je pense que la foi, l'espérance peut changer. Je pense que nous sommes dans une transition, c'est-à-dire nous sommes vraiment entrés dans la mondialisation. Et après la guerre froide, il y a eu une première mondialisation pleine d'espérance, d'une paix, d'une ouverture. Les murs tombés, tout ça. Mais maintenant, dans les nouveaux siècles, et surtout dans ces années, nous entrons dans un monde où on a peur. On a peur de l'autre. On a peur d'un univers sans frontières. Et alors, on cherche de se défendre. Certaines réactions politiques s'inscrivent dans ce cadre.
Et vous, Andrea Riccardi, qui avez été il y a 7 ans le ministre italien de la coopération internationale et de l'intégration, est-ce que vous reconnaissez votre pays aujourd'hui après l'élection qui a porté la Ligue du Nord et Matteo Salvini à la tête de votre État?
Je reconnais mon pays, mais je dois reconnaître aussi un grand changement, car la Ligue était un phénomène du Nord et maintenant il est devenu un phénomène national. Mais surtout, ce qui me touche beaucoup, c'est la fin ou la grande crise des partis traditionnels. Et c'est la crise de notre démocratie. C'est-à-dire, le phénomène Salvini, ce n'est plus un phénomène d'un parti du Nord de l'Italie qui a des exigences fédéralistes, ben ça devient une vision nationaliste de l'Italie.
Une vision peut-être égoïste qui tourne le dos aux pays du Sud et aux migrants?
Au moins, je dirais une vision souverainiste. Je ne vais pas définir les électeurs comme des égoïstes. Je pense que les égoïstes sont plus nombreux avec des électeurs de la Ligue, dans le sens que nous sommes des sociétés maintenant beaucoup fondées sur l'ego, car nous sommes beaucoup fondées sur le sens victimaire et sous la peur de notre futur et la peur de l'autre.
Il y a 50 ans, Andrea Riccardi, vous avez créé Sant'Egidio avec quelques amis étudiants, et tout cela pour vous mettre au service des pauvres. Et puis dans les années 90, vous vous êtes mis aussi au service de la paix. L'accord Frelimo-Renamo de 1992 au Mozambique, c'est beaucoup un accord que vous avez construit vous-même. Mais pour un succès, est-ce que vous n'avez pas rencontré beaucoup d'échecs?
Mais je veux dire, Sant'Egidio est né en 68 aussi dans le climat du Vatican II qui avait trouvé sa conclusion en 65. C'était la découverte de l'Évangile et la découverte de Rome, où Sant'Egidio est né, comme une ville qui avait des zones de tiers-monde, de grande pauvreté. Et on a commencé à travailler avec les pauvres et en travaillant en Afrique, on s'est mesuré avec la guerre, que c'est un peu la mère de toutes les pauvretés. La guerre, c'est la fabrique de pauvreté. On le voit aujourd'hui en Syrie avec les réfugiés. Et alors, au Mozambique, et c'est la première expérience de médiation de paix de Sant'Egidio, on a rêvé la paix. Et on a bâti en 3 années une médiation entre le gouvernement Frelimo et la guérilla Renamo. Et le Mozambique est devenu un pays multipartitaire, avec de différents partis. La Renamo est devenue un parti. Et la paix dure au Mozambique. Et après ça, nous avons continué. Mais les échecs, bon, il faut parler des échecs. Je peux parler de l'Algérie, quelques années après, où nous avons lancé un message de paix et d'entente qui a été refusé par le gouvernement en poste à l'époque, au pouvoir à l'époque. Mais je dirais, le secret de Sant'Egidio est la fidélité par des années à des situations différentes. Je pense à la guérilla de la Casamance, sur laquelle nous travaillons depuis des années et des années. C'est-à-dire, nous continuons là où nous pouvons.
La Casamance, justement, il y a toujours des tensions. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le changement de régime en Gambie peut aider à la paix?
Moi, je pensais que le changement de régime en Gambie pouvait aider à la paix, mais le problème est aussi la psychologie des rebelles. J'ai connu des rebelles, pas trop le Casamance, mais de différents pays. Après des années de guérilla, on s'insiste, on se bloque dans une situation. Je l'ai vu aussi au Mozambique. On a peur de la paix, on a peur de perdre, on a peur aussi de faire une nouvelle vie.
Vous avez beaucoup aidé à la paix au Burundi il y a 15 ans, mais depuis 2015, c'est à nouveau la tension avec un dialogue impossible entre le pouvoir et l'opposition en exil. Est-ce que vous n'êtes pas très déçu par ce qui se passe?
L'histoire continue. Nous sommes présents comme communauté au Burundi et nous travaillons avec les pauvres et les démunis. Et je crois que la paix, ce n'est pas un miracle en tout le monde qui change l'histoire. L'histoire continue complexe aussi au Mozambique. Il y a 2 ans, il y a eu de grands problèmes, mais nous continuons où nous pouvons à suivre les différents pays.
En Centrafrique, où vous œuvrez beaucoup depuis quelques années, il y a une dimension supplémentaire dans la guerre, c'est la dimension religieuse et ce conflit terrible entre chrétiens et musulmans. Est-ce que là, vous n'êtes pas dépassé?
C'est très difficile en Centrafrique, surtout car l'État est effondré. L'État, c'est la ressource pour les plus pauvres, pour les périphéries, pour la légalité, pour la justice. Et il faut défendre l'État et il faut chercher de réconcilier les poches de rébellion ou des guérillas avec les institutions. Ça, c'est notre grand travail. Le discours religieux est devenu une idéologisation du conflit, car ce discours sur la Centrafrique nous porte à réfléchir sur le rôle de la religion comme idéologie de combat. Ça arrive en Afrique, ça arrive un peu partout. Et on pensait, il y a 50 ans, que le monde était sécularisé et tout le monde était en train de devenir une grande France, toute sécularisée, où les religions avaient un rôle marginal, surtout en public, mais tout a changé. On l'a vu avec Khomeini en Iran, 79. On a vu la religion en public, et après on a vu le rapport religion-terrorisme, et après on a vu la guerre des religions. Mais une guerre soi-disant de religions, il y avait déjà en Irlande du Nord, catholique et protestant. C'est une vieille histoire qui revient.
Et aujourd'hui, malgré l'accord de Rome pour la Centrafrique, c'était en juin 2017, sous votre patronage. Malgré cela, eh bien, les violences continuent de plus belle. Il y a eu des massacres terribles il y a quelques semaines.
Ces massacres sont quelque chose d'horrible et je pense que ça nous invite à continuer les efforts et à inviter l'Union africaine, les Nations unies, l'Europe à travailler encore plus. Je pense qu'il ne faut pas oublier la Centrafrique. Nous avons de grands problèmes sociaux. Nous avons ouvert à Bangui un centre DREAM pour soigner le malade de sida, que c'est un grand problème. Car où il y a la guerre, il y a une diffusion de sida.
La force de Sant'Egidio, c'est la patience, l'écoute et peut-être aussi la nature désintéressée de votre démarche. Est-ce que cela veut dire que les diplomates professionnels ont des agendas cachés et que vous, vous arrivez là où d'autres n'arrivent pas? Je pense notamment à la Centrafrique.
N'exagérons pas. Il faut se tenir avec une certaine humilité, que ce n'est pas seulement une humilité chrétienne, mais c'est une humilité imposée par la réalité. Bon, je crois que Sant'Egidio a des ressources. La patience, la capacité de ne pas avoir des intérêts derrière ou des intérêts économiques ou politiques, c'est-à-dire être désintéressé, désintéressé. Ne pas avoir un agenda, ça signifie aussi avoir la patience de suivre le conflit. Mais je crois, l'autre chose c'est que dans chaque homme, et souvent le combattant, la plupart sont des hommes, car la guerre c'est une activité masculine, je trouve qu'à chaque homme, il y a un désir caché de paix, dans chaque dirigeant. Il faut le faire sortir et il faut aider ce désir de paix à devenir un choix et une politique.
Alors quelquefois on vous critique quand même, Andrea Riccardi, et on dit que dans votre tradition ecclésiale, vous privilégiez la compassion au bénéfice de l'ordre établi. Alors je vous donne un exemple, c'est le Togo. Vous dites dans votre livre que vous avez reçu récemment le président, Faure Gnassingbé, qui vous a remercié pour tout ce que vous avez fait pour le dialogue pouvoir-opposition du temps de son père, Gnassingbé Yadema. Est-ce que vous n'êtes pas, dans un cas comme celui-là par exemple, du côté de l'ordre établi?
Non.
Du statu quo, si on peut dire.
À l'époque, non. Quand on a travaillé pour faire avoir le passeport à Olympio et quand on a cherché d'insérer l'opposition dans leurs droits, on a travaillé pour la démocratie. On a reçu le président et maintenant je connais la situation très grave du Togo. Je l'ai suivi. Je visitais le Togo il y a 2 ans et nous ne sommes pas un soutien au pouvoir en ce moment. Mais je pense que la critique, c'est qu'on parle avec tout le monde. Ce n'est pas seulement le problème du Togo.
Une médiation qu'on connaît beaucoup moins, c'est dans le sud libyen où vous avez fait le facilitateur entre les Toubou et les Ould Slimane. Il y a eu un cessez-le-feu, mais les combats ont repris il y a 6 mois à Séba. Est-ce que tout cela n'est pas désespérant?
Eh, vous avez raison. La situation libyenne, c'est une situation désespérante. Cette guerre en Libye, sans l'idée d'une alternative politique au régime de Gaddafi, a ouvert le vase de Pandore.
La boîte de Pandore.
La boîte de Pandore. Et maintenant, nous nous trouvons dans une situation morcelée. Ce n'est pas seulement Benghazi et Tripoli, mais c'est aussi le sud. Mes amis de Sant'Egidio qui ont travaillé dans le sud avec les tribus du sud trouvent que c'est très stratégique aussi pour les problèmes migration, car il y a aussi une exploitation des migrants. Il faut mettre les tribus du sud, Touareg aussi, dans le cadre d'une négociation. Et il y aura à Naples, dans les prochaines semaines, une rencontre de la société civile et des tribus du Sud, et parrainée par Sant'Egidio, par des universités italiennes et le gouvernement italien aussi, pour travailler en ce sens.
Alors vous avez partagé un petit déjeuner avec Emmanuel Macron, c'était en juin dernier à l'ambassade de France à Rome. Est-ce que vous parlez régulièrement, aussi bien avec le président français qu'avec le premier ministre italien, Giuseppe Conte, sur ce problème libyen ?
Non, je ne parle pas régulièrement avec le président, le premier ministre Conte. Les amis de Sant'Egidio, qui travaille dans les problèmes internationaux, ont des rapports réguliers avec le ministère des Affaires étrangères italien et aussi avec les autorités françaises. C'est-à-dire, pour travailler efficacement pour la paix dans ce monde où tout se privatise, les États sont très importants encore. Et je crois beaucoup au travail de Sant'Egidio, mais je pense que les États sont les acteurs majeurs, et des États comme la France, l'Italie, l'Allemagne, et des autres.
Andrea Riccardi, merci.